Merci Pierrick et Lydia, et merci Pierrick pour continuer avec les enfants encore. On va parler un peu de service, et soyez remerciés pour le vôtre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, particulièrement ceux qui nous visitent, il y a un certain nombre de personnes qui nous visitent. Effectivement, comme Lydia l'a dit, c'est un petit peu clairsemé ce matin, c'est les vacances. Mais malgré les vacances, le Seigneur est à l'œuvre et il nous parle. Et c'est vrai que j'aurais aimé apporter ce message particulièrement devant l'ensemble de notre communauté. Mais pourquoi le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais malgré tout, on voudrait partager ensemble quelques pensées de la parole de Dieu, qui me tiennent particulièrement à cœur. On veut lire d'abord dans Jean, au chapitre 13, et au verset 1. Peut-être que certains ont déjà lu ce passage ce matin. Jean, chapitre 13, verset 1. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Moi, ce verset, il m'émeut à chaque fois. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Je ne sais pas si on essaye de visualiser la scène. Il arriva donc vers Simon-Pierre et qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !» Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était venu, qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez vous laver les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » On sait que dans le contexte d'Israël, À l'époque où la scène se passe, on marchait pieds nus dans des sandales, dans des terres arides et desséchées, et que nos pieds se salissaient, raison pour laquelle des serviteurs lavaient les pieds de quelqu'un qui entrait dans une maison avant les repas, et pour les décharger de cette poussière qu'ils avaient accumulée. Mais le Seigneur, lui, alors que tous ceux qui étaient dans cette pièce auraient dû lui laver les pieds, c'est lui qui va laver les pieds. L'autre jour, j'étais sous ma douche. Je sais, vous allez vous dire pourquoi il nous parle de sa douche. Et je ne sais pas comment vous vous lavez. Peut-être juste le visage. Peut-être jusque là où vos mains vont aller. Mais peut-être aussi vous lavez-vous l'ensemble du corps, jusqu'aux pieds. Et moi, beaucoup ici le savent, mes genoux étant en piteux état, il m'est très compliqué de me plier pour aller sous les pieds, mais il m'est aussi compliqué de lever le pied pour l'amener jusqu'à mes mains. Et je réfléchissais en me disant, c'est pas facile de se laver sous les pieds. À la limite, tant pis, on ne lave pas sous les pieds. Ils sont posés par terre, personne ne va voir dessous. Et pourtant, si on a marché dans la boue, il faut bien se laver sous les pieds. Sinon, quand on va marcher, ça va salir, laisser des traces. Peut-être que vous n'avez jamais marché dans la boue, mais sachez que même dans la poussière, ça salit quand on marche. Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous laver, ok. En tout cas, moi, j'ai beaucoup besoin de me laver sous les pieds, mais ce n'est pas pour vous. J'ai besoin que celui dont on a parlé dans ce texte, puisque pour moi c'est trop compliqué, vienne souvent me laver sous les pieds, me laver les pieds. Pour cela, il faut juste lever les pieds et lui tendre. Il faut juste, des fois c'est trois mots difficiles, mais c'est notre part. Peut-être certaines fois aussi avons-nous besoin de laisser un autre nous aider pour laver nos pieds. Peut-être qu'on a aussi besoin d'apprendre à laver les pieds des autres dans l'amour. Moi, j'ai réfléchi aussi que peut-être on doit faire aussi attention où on met nos pieds. Consciemment ou inconsciemment. Souvent aussi, on n'écoute pas notre conscience. Ça nous dédouane. Maxime revient du Burkina. Et il vous confirmera que dans ce pays sec, la terre est rouge. Que quand on sort pour marcher, où que ce soit, même sur le goudron, même dans les villes, nos pieds sont rouges. Même si vous avez des chaussures, vos pieds sont rouges. Et donc, faisons attention où nous mettons nos pieds. On peut penser qu'on n'a pas besoin de se laver les pieds. Et si le Seigneur nous a emmenés, comme il est dit dans la parole, Christ nous a emmenés dans les lieux célestes avec lui, en esprit, auprès du Père. Nos pieds sont sur terre encore. J'ai été surpris, encore une fois, en relisant dans mes lectures régulières, de nouveau les rois et les chroniques. Des fois, c'est un peu fatigant de lire les rois. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Oui, il y a tous ceux qui n'ont pas obéi à l'Éternel. Et ils ont fait des choses terribles, terribles, dont on n'ose même pas parler. Pourtant, c'était le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et puis, il y a un certain nombre de rois, peut-être pas beaucoup, mais un certain nombre quand même, qui ont marché dans les voies de l'Éternel, qui ont réinstauré le culte de l'Éternel, qui ont enlevé un certain nombre d'idoles. Toutefois, c'est marqué souvent, toutefois, ils ne firent pas disparaître toutes les idoles et les hauts lieux du pays. Ils ont presque obéi. Mais quelles conséquences. Je pensais aussi, dans cette analyse, on a l'image du Seigneur qui parle de celui qui a chassé un démon, qui a nettoyé sa maison et il revient avec sept plus puissants. Et dans mon terrain, il y a pas mal d'années, j'avais planté des acacias. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien les acacias. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous approcher d'un acacia, c'est impossible sans vous faire mal quelque part. Ça pique. Et puis, les acacias, ça repousse des racines, donc ça s'étend d'une façon phénoménale. L'année passée, je crois, ou il y a 2 ans, avec ma petite mini-pelle, j'ai passé des jours et des jours à arracher ces acacias. Vous avez déjà des jolis troncs, je les ai coupés, ça c'était bien. Mais vous savez, un acacia, vous le coupez, 3 semaines après, vous avez de nouveau une pousse de je ne sais pas combien de mètres. Et j'ai arraché ces souches et ces racines, j'ai creusé autour. Elle est toute petite, ma pelle, c'était compliqué, c'était lourd, c'était difficile, je l'ai usé, je me suis usé. Et j'ai réussi à arracher ces souches. Et souvent, il y a des racines qui partaient loin, j'ai arraché les racines. Et mon terrain est devenu propre. Mais, si je ne passe pas la tondeuse pendant quelques temps, ça ressort des petites pousses d'acacia de partout. Et puis surtout, j'ai ma clôture, et il y a une haie d'acacia qui a repoussé juste derrière la clôture. Et là, il commence à me faire de l'ombre. Tout ça pour dire, avec les acacias, j'ai nettoyé le terrain, mais je n'ai pas réussi à enlever tous les petits bouts de racines qui étaient partout et qui rejaillissent régulièrement. Et puis même si j'arrive à maintenir mon terrain, juste à côté, il y a des acacias qui sont poussés là, qui me font de l'ombre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir regagner le terrain de ce côté-là. Attention où on met les pieds. Attention à l'état sous nos pieds, là où ils sont posés. On a les pieds sur la terre, je l'ai dit, on ne peut pas marcher sur cette terre comme au Burkina sans que nos pieds soient salis. Et on a besoin que nos pieds soient lavés par le Seigneur régulièrement. Même lorsqu'on a été purifié, comme il le dit à Pierre. Pas besoin de te laver la tête et les mains, tu as celui qui a été lavé, mais tes pieds. Ils sont sur la terre et j'ai besoin de les laver. Et on a besoin que le Seigneur nous lave les pieds et on a besoin de venir à lui pour qu'il puisse nous laver les pieds. Et quoi qu'on fasse, on aura besoin de le faire, mais on a aussi besoin de faire attention où on met nos pieds. J'ai aussi été surpris ces quelques semaines dernières en lisant une petite méditation, c'est pas tout à fait en rapport, mais quand même, parlait de la veuve qui avait mis les 2 petites pièces, vous savez, dans le tronc. Et puis, il disait, la valeur de ces 2 petites pièces, elle existait aussi en une seule pièce. Ça aurait pu être ça l'histoire. Et à ce moment-là, elle aurait dû faire le choix. Je mets la pièce ou je la mets pas. Elle, de toute façon, elle a mis les deux. Mais elle aurait pu en mettre qu'une. Notre vie à nous. On donne les deux pièces ou on en garde une au fond de la poche. On peut se poser la question. Et avant de passer au deuxième aspect, le plus évident de ce texte, parce que celui que je vous ai apporté maintenant, c'est peut-être une interprétation personnelle, j'ai relevé trois cas. Il y en a sûrement beaucoup plus. Le premier, j'espère qu'il n'y en a pas ici, c'est ceux qui pensent qu'ils sont trop sales pour être lavés. Personne n'est trop sale pour être lavé. Personne. Le Seigneur, dans l'histoire qu'on a lue peu de temps après, est monté sur cette croix pour nous laver entièrement et nous purifier notre corps tout entier. Et personne, personne n'est trop sale pour être lavé. Deuxième, ceux qui pensent, à juste titre, et je pense qu'il y en a beaucoup ici, ont déjà été lavés. Et comme je l'ai dit, qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se laver les pieds car ils ne sont pas sales. Mais les compromis, sournois. On a mis les pieds des fois dans quelque chose, vous savez, le froid et le chaud. Et puis le tiède c'est agréable souvent. Hein, vous savez l'histoire de la grenouille où on chauffe de plus en plus. Au début c'était pas chaud et puis tout d'un coup ça devient de plus en plus chaud. Et des fois on a mis les pieds dans des compromis. Et puis de plus en plus ça devient chaud. On a besoin toujours de se laver les pieds. Et puis trois, je pense aussi qu'il y a ceux qui pensent qu'ils arrivent, qui plus facilement que moi, ils arrivent à aller sous leurs pieds. Ils arrivent à se laver par leurs propres moyens, le dessous des pieds. Et finalement, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin que leur corps soit lavé par le Christ. Et pourtant... Pour venir au deuxième aspect, l'aspect du service que le Seigneur lui-même énonce dans ce texte, c'est une image que j'ai déjà évoquée une fois dans un petit texte, c'est l'image de la cordée que j'aime bien. Vous savez ce que c'est qu'une cordée quand on escalade une montagne où chacun est attaché l'un derrière l'autre et assuré les uns les autres. Le Seigneur est en tête de cette cordée. Il a lui-même ouvert le chemin. C'est lui qui est devant. C'est lui qui tient cette cordée. Il est à la fois en haut, devant, il est, on l'a dit, il est remonté vers le Père, il est au ciel. Il a vaincu le sommet, la montagne, mais il est aussi tout le long de la cordée. Et comment est-il tout le long de la cordée? Alors oui, il agit de plusieurs façons. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, on le sait. Il n'a pas de problème pour être partout le long de la cordée. Mais aussi, et surtout, d'après moi, il est présent partout, tout au long de la cordée, parce qu'il est en chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'il est présent partout dans la cordée, en chacun. Il est là pour nous, et aussi pour ceux qui sont autour de nous, par nous. Il est là pour ceux qui sont autour de nous, par nous. Besoin de tous. Tous utiles. sinon la cordée ne progresse plus normalement. Si chacun, au lieu de faire sa part, reste pendu dans le vide, comme un poids mort, la cordée ne progresse plus normalement. Certes, nous restons accrochés au Seigneur, mais nous n'avançons pas. Nous restons en suspens au bout de la corde. Moi, je dirais que, au fil des siècles, l'Église est souvent restée pendue au bout de la corde. Car il n'y avait pas le fonctionnement du corps actif, tous actifs. Chacun a un rôle dans la cordée, envers celui qui est devant, pour ne pas être une trop grosse charge, un trop gros poids mort, mais pour celui qui est derrière aussi. Peut-être aussi que des fois on est accroché à cette corde, dans cette cordée, qu'on n'en a pas conscience. D'autres peut-être regardent en bas et ont le vertige. D'autres peut-être n'ont plus d'énergie à force de tirer ou à force de faire des efforts tout seul. Sans se préoccuper ou se servir ou participer à la cordée. D'autres pensent qu'ils ne pourront pas avancer. Pourtant, si la cordée progresse, ils progresseront infailliblement avec. Etc., etc. Pourtant, nous n'avons pas à ouvrir la voie. Elle est déjà ouverte et vaincue. Le drapeau de la victoire est planté au sommet. Christ lui-même. Nous n'avons pas à chercher un nouveau passage. Nous devons seulement monter en cordée en suivant la corde, le guide, et aller nous emparer de ce drapeau pour l'agiter et montrer à ceux du bas qu'il y a une voie ouverte et sûre qui monte vers le sommet. Chaque place dans la cordée est importante, du bas jusqu'en haut. Personne ne peut ou ne devrait penser qu'il n'y a pas sa place. Car par définition, s'il n'était pas là, la cordée serait interrompue. Nous nous tirons, nous poussons, nous encourageons, nous portons, nous laissons tirer, porter, etc., etc. De façon différente, par moments différemment, mais nous sommes chacun et tous l'accorder. Nous sommes obligatoirement un lien, une jonction, une circulation pour rejoindre l'image du corps, indispensable à l'accorder. Car c'est la façon choisie par le Seigneur d'être partout dans l'accorder pour chacun et à travers chacun. Oui, il est le grand pasteur, le grand berger, mais il a choisi d'avoir un troupeau interactif avec lui, mais aussi entre lui. Dans notre assemblée, nous avons émis le souhait et pris la décision de chercher un pasteur. Nous n'en avons pas aujourd'hui pour ceux qui nous visitent. Un pasteur pour le troupeau que nous sommes, ou plutôt pour servir le Seigneur au sein du troupeau. Je ne crois pas que c'est un scoop. J'ai le souhait depuis longtemps d'être votre pasteur, et je le suis, mais dans le sens d'origine. La racine du mot pasteur, berger. Dans notre région, il y a une association pastorale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une association pastorale, ce n'est pas une association de pasteurs d'église. C'est l'association des bergers d'alpage dans les montagnes. C'est ça le pastoral. C'est une association de bergers. Le mot pasteur, c'est un mot berger. C'est l'origine. Mais arrêtons-nous un peu. Pas pour remettre en cause l'idée du pasteur, mais pour éclairer un peu le fond de mon partage. Si nous cessons, un peu, un moment, d'être des moutons. Cessons d'être des moutons. On n'a pas l'impression d'être des moutons. Mais je ne vais pas bêler, hein. On aurait pu dire bébé, hein. Les bras tendus comme ça, pasteur, ancien, berger, au secours, moi pauvre mouton tondu. C'est vrai, ça arrive, hein, d'être un mouton tondu. Moi-même, j'ai été un mouton tondu certaines fois. Bref, et si le dessein du Seigneur, ce n'était pas un troupeau de moutons, mais un troupeau de bergers? Si le dessein du Seigneur, ce n'était pas un troupeau de moutons, mais un troupeau de bergers, est-ce que nous ne verrions pas les choses différemment? Au lieu d'attendre ou espérer les efforts d'un autre ou les soins d'un pasteur? Si du coup, porteur de l'identité familiale du grand berger, de notre famille, chacun, quel que soit son état, essaie donc, au lieu de tendre les bras presque toujours mendiants. Attention, ce n'est pas la même chose, hein. Vous pouvez tendre vos bras comme ça en haut. Et ça, c'est normal, il faut le faire tous les jours. Si chacun, au lieu de tendre les bras presque toujours mendiants, les tendait systématiquement vers les autres brebis pour les soutenir, encourager, pleurer ou être dans la joie avec elles. Au lieu de bras empêtrés, retournés sur soi, chargés de fardeaux qu'on ne pose jamais et qui nous entrave. Tous, nous n'aurions alors face à nous que des bras ouverts, tendus vers nous, chargés d'amour et de grâce, chacun recevant les soins et donnant les soins dans le même mouvement. Et du coup, nous aurions une cordée qui progresse dans l'ascension, forte de chacun et de tous. Est-ce que nous voulons monter, nous emparer de ce drapeau et l'agiter comme un phare pour en faire la bannière de la victoire? Un troupeau en rang serré. Dès qu'une brebis est à l'écart, elle est vulnérable. Dès qu'il y a des espaces dans le troupeau, il est facile de le séparer et de le disperser. Mais bien compact, serré, chaque brebis est en sécurité, même les plus faibles. Nous cherchons une vision pour l'Église. Voici celle que moi j'ai reçue en profondeur. Un troupeau de bergers qui se tire, se pousse, avance et montre le drapeau du sommet, vaincu, du sommet vaincu déjà, pour indiquer le chemin du haut jusqu'en bas à tous ceux qui ne sont pas encore dans la cordée. Amen.
Je vous invite à un temps de silence, de réflexion aussi par rapport à ce que nous avons entendu. et je terminerai par la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu as des projets pour chacun, des projets de paix, non de malheur. Merci parce que tu désires nous rendre en lien directement avec toi. Merci parce que tu es notre Père, parce que tu désires de faire de nous tes enfants qui sont en relation continuelle avec toi. Merci Seigneur parce que tu es avec nous chaque jour, tu es en nous. Merci parce que tu désires te révéler à nous à chaque instant, être en contact, en communion même avec nous à chaque instant. Aide-nous aussi en tant qu'Église à nous porter, à nous aider, à nous encourager, à nous encourager à être à chaque instant proche de toi, les uns les autres. Oui, Seigneur, nous te remettons cette image que Raymond nous a présentée, que tu nous aides à la rendre vivante, à permettre qu'elle soit une réalité à chaque instant, une réalité dans cette Église, pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois béni, Seigneur, parce que tu as tout préparé d'avance. Merci pour ce chemin que tu nous traces, que tu nous montres. Et c'est vrai, aide-nous à y rentrer pleinement dedans, chacun. Amen. Amen. Vous l'avez remarqué, c'est un temps de. On est en plein dans le temps de vacances. Les activités sont light, très light cette semaine. Il n'y a même pas le. La gym samedi prochain. On a quand même le thé café dimanche prochain. Alors, profitons aussi de ces moments de partage. Concernant le thé café, on a une nouvelle liste qui est mise au fond de la salle. Donc, merci à ceux qui l'ont à cœur de s'inscrire pour préparer ces moments. Dans 2 semaines, nous n'aurons pas de culte ici. Donc, le culte sera à la Lécherolle. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous pouvez me demander ou demander à d'autres dans l'église. C'est donc un chalet d'alpage. Et pour y accéder, on va jusqu'au parking de la Vatée. Et puis là-bas, soit on fait le dernier petit bout à pied, soit on se fait transporter dans la petite carriole d'Éric. Donc voilà, on vous donnera plus d'informations dimanche prochain, mais... Prévoyez que dans 2 semaines, il n'y aura pas de culte ici. Donc, surtout, ne venez pas ici, ce ne serait pas la peine. Continuons à penser à ceux qui souffrent dans leur santé. Guylaine est parmi nous ce matin. Sois bénie, Guylaine, parmi nous. Que le Seigneur vous conduise, vous guide, vous aide, jour après jour aussi avec Jacques. Continuons de penser aussi à Brian et Hélène, qui vont très probablement partir à Nice vers la fin du mois. Mais remettons-les vraiment dans nos prières pour que ce temps qu'ils vivent actuellement, qui n'est pas facile, bien soit le mieux vécu. Annelise est toujours à la clinique de Beaubougie à Nyon. Elle apprécie les visites. C'est important de lui téléphoner avant. J'ai mis le numéro de téléphone sur le site. Vous pouvez me le demander aussi. Voilà, c'est important aussi de nous soutenir aussi les uns les autres pour ceux qui ont des soucis de santé. Cette semaine, on vous invite à prier pour la Malaisie. On vous invite à prier aussi pour la famille Glozer et le collège MLK. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore 2 versets dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.